Légende du lac Trois-Saumons par Nicole Guibeault, tirée du recueil Bestiaire des légendes du Québec des éditions Les Heures Bleues, avec des illustrations du livre par Joanne Ouellet. Pour bien comprendre cette légende, il faut savoir que le lac Trois-Saumons n'est pas situé tout près du fleuve, mais à quelques kilomètres dans les terres, un peu au sud de Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi le lac s'appelle-t-il Trois-Saumons? C'est ce que cette histoire nous apprend. Il y a de cela très longtemps, au début de la colonie, des tribus d'Amérindiens vivaient dans cette région depuis des siècles, dont les Hurons, qui s'étaient établis en bordure du lac. Ceux-ci entraient parfois en guerre contre les Iroquois, mais ils trouvaient alors refuge dans les montagnes avoisinantes. Ils vivaient là, somme toute, plutôt heureux, à proximité du lac qui leur servait de garde-manger et leur assurait une eau pure à boire. Un jour, le bruit courut que des visages pâles étaient arrivés sur les berges du fleuve depuis quelque temps, que c'étaient des gens très différents d'eux, qu'ils portaient des vêtements étranges et n'avaient presque pas d'abri où s'installer. Ils bâtissaient des maisons, mais détruisaient la forêt, saccageaient l'environnement que les Hurons connaissaient bien, et apportaient avec eux des objets qu'on voyait pour la première fois. Des miroirs, des colliers surprenants, des armes incroyables, de la boisson. Des choses bonnes et d'autres bizarres. Les Hurons prirent l'habitude de se rendre là où se trouve actuellement Saint-Jean-Port-Joli pour observer ces nouveaux arrivants qui foulaient désormais la même terre qu'eux. Ils réussirent tranquillement à se rapprocher de ces étrangers et remarquèrent qu'ils s'en trouvaient plusieurs à porter de grandes robes noires avec un collet blanc et à tenir sous le bras une sorte de brique noire, de roche noire. Ils ne savaient pas que c'était un livre et ils regardaient avec encore plus de perplexité le collier et la croix qui pendaient à leur cou. Ils se demandaient: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'ils sont méchants? Après un certain temps, ils réussirent à s'entendre avec les étrangers. Les premières approches furent plutôt craintives, mais les Blancs, y compris les missionnaires, leur firent des cadeaux en signe de paix, et les Amérindiens furent rassurés. Les pères venaient les convertir, mais ils ne comprenaient pas la façon de vivre des indigènes et voulaient les civiliser, leur apporter la culture. Ils leur offraient des colis fichets, des croix, des images. Les Hurons les regardaient en riant, tout heureux de rapporter ces présents à leurs femmes, à leurs enfants. Il se créa ainsi une sorte de lien d'amitié et de curiosité entre eux. Les Hurons vinrent de plus en plus souvent au bord du fleuve rencontrer les Blancs et, un beau jour, ils emmenèrent les missionnaires à leur village au bord du lac. Ceux-ci furent impressionnés par la beauté des lieux, par le lac si pur, si grand. Après s'être promené plusieurs jours en canot sur cette étendue d'eau limpide, en avoir fait le tour encore et encore, en admirant tranquillement le paysage autour d'eux, les missionnaires décidèrent de s'installer là, de trouver un endroit propice où s'établir. Ils choisirent l'extrémité du lac pour être tout près des Hurons dont ils voulaient faire de bons catholiques. Mais des colons arrivèrent à leur tour et s'y établirent aussi. Ils furent de plus en plus nombreux, leurs familles grossirent, et ils finirent par ne plus respecter le pacte conclu au départ entre Blancs et Amérindiens. Ils distribuaient encore des miroirs et des chapelets, mais c'était des choses de peu de valeur en comparaison du gibier reçu en échange dont ils pouvaient se nourrir et nourrir leur famille. Cette façon de remercier les nouveaux arrivés était venue tout naturellement aux Hurons. Comme le nombre de Blancs augmentait, les Amérindiens furent repoussés de plus en plus loin, jusqu'en dehors des limites de leur territoire. Les colons continuèrent à occuper de plus en plus de terrain, tuèrent beaucoup trop d'animaux aux alentours. Ils mangeaient énormément aux yeux des Hurons et finirent par ne plus proposer à ces derniers que de la boisson contre le gibier. Lentement, la nation huronne dépérissait, pourrissant comme un vieil arbre malade, et le chef, lui, trouvait affreux de voir ses guerriers sombrer dans la paresse, délaisser la chasse et le travail, danser trop souvent sans but et sans arrêt, ne plus rapporter que des pots pour les échanger contre des babioles ou, le plus souvent, contre de l'alcool. Quelques années passèrent. Le grand chef eut une longue discussion avec son sorcier et lui dit finalement « Viens avec moi. Allons prévenir les trois missionnaires de ce qui arrive chez nous. Disons-leur que rien n'est plus comme nous le voulions, que le pacte conclu avec eux n'est plus respecté. » Ils entamèrent calmement les discussions, mais les trois pères n'arrivaient plus eux-mêmes à contrôler la situation. Plusieurs Hurons s'étaient convertis et les Blancs nouvellement installés commençaient à être heureux dans les maisons qu'ils avaient bâties, avec leurs jardins, leurs prés, leurs animaux. Ils avaient intérêt à ce que le peuple Huron continue à dépérir. Les prêtres refusèrent d'intervenir pour corriger la situation et mettre fin au malheur dans lequel les Hurons étaient plongés. Le sorcier et le grand chef insistèrent encore, puis, constatant qu'on ne les écoutait pas, ils se retirèrent et prirent une décision. Fous de rage d'assister, impuissants au dépérissement de leur village et de se voir refuser l'aide dont ils avaient tant besoin, ils enlevèrent les trois missionnaires. Après avoir longuement pagayé dans leur canot, ils les ligotèrent et les abandonnèrent dans l'eau à une extrémité du lac, très loin des autres blancs. Ils dansèrent toute la nuit sur le rivage, près d'un grand feu qu'ils avaient allumé sur la rive, invoquèrent le grand esprit, puis quittèrent les lieux. Quand ils revinrent le lendemain, il ne restait plus que les cordes au bord du lac. Les trois missionnaires avaient disparu. Après s'être assis sur la rive, les deux Indiens aperçurent trois saumons qui sautaient au-dessus des eaux, comme ils l'avaient souhaité dans leurs incantations et leurs danses rituelles. Leur vengeance était accomplie, et le lac porte encore le nom de Trois Saumons en souvenir de ce que sont devenus les missionnaires de cette colonie. Je voudrais remercier les éditions Les Heures Bleues qui m'ont gentiment donné la permission d'utiliser ce texte afin de l'enregistrer, bien qu'il ne soit pas libre de droit.